associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Et aujourd'hui et pour le reste de la semaine, le pédalo s'installe au quai pour 4 émissions spéciales consacrées au concours des compagnies du Festival d'Anjou. Chaque soir de la semaine, une troupe émergente viendra jouer ici une pièce originale. Et ce lundi, rendez-vous avec Mélancoliquea, Comment meubler sa peine de Maïane Barthès, qui est notre invitée de cette émission. Mais avant, on sera avec Ronan Pichavant, directeur de l'événement. Il vient nous parler de cette édition 2026 du Festival d'Anjou. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du lundi 15 juin. Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Tout le mois de juin, le Festival d'Anjou fait vivre le théâtre à Angers, mais pas que. Cette année, ce sont 20 pièces qui sont au programme. On y retrouve du one-man show, de la chanson ou de la danse, à travers des têtes d'affiches, mais aussi des artistes émergents. Alors pour en parler avec plus de détails de ce festival, on reçoit ce soir Ronan Pichavant. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, petit problème de micro.
Bonsoir.
Voilà. Tu es donc directeur du Festival d'Anjou et tu as même décalé France Inter pour être avec nous ce soir, donc merci beaucoup.
Merci Simon.
Et on est là donc pour parler du festival qui a donc démarré le 1er juin. On entame donc la troisième semaine. Comment ça se passe pour le moment?
J'aurais dire plutôt bien. Cette 67e édition avec ces deux premières semaines assez intenses s'est bien déroulée. La météo est avec nous. Les compagnies, les propositions se sont admirablement bien passées. Les conditions de jeu également. Un public encore toujours de plus en plus fidèle. Là, sur les 15 premiers jours, on est à pas loin de 10-15 000 spectateurs. Donc ça fonctionne encore tout à fait bien. Donc on est sur la troisième vague, là, sur cette troisième semaine intense. Mais les 15 premiers jours, vraiment, là, on est ravis hein, sur tous les sujets.
On espère que ça dure.
On va dire que ça va durer.
Alors cette semaine, donc, si on est ici au quai, c'est parce que c'est là que se déroule le concours des compagnies qui met en valeur des artistes émergents. Alors c'est le grand retour de ce dispositif qui ne s'est pas tenu hein, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. On imagine que c'est une satisfaction de voir le retour de ce concours des compagnies.
Oui, alors ça fait exactement 2 ans que le concours des compagnies avait disparu des radars du Festival d'Anjou. Alors on est ravis à plus d'un titre. D'abord parce que ça fait partie de l'un des ADN du Festival d'Anjou, le Festival d'Anjou. L'idée, c'est que ça joue dans des sites historiques du département, que ce soit en indoor ou en outdoor. Et le deuxième ADN, c'est de promouvoir, de soutenir des compagnies émergentes. Donc, cet ADN qui a un peu disparu depuis 2 ans, en raison des coupes budgétaires, je ne vais pas rentrer dans le sujet, je pense qu'aujourd'hui, tous vos auditeurs de Radio Campus sont au courant. Mais l'idée était de dire, il faut à tout prix, cette année, de relancer ce concours des compagnies qui fait partie d'un des ADN du festival. Et le deuxième élément, c'est que ça permet aussi d'ouvrir les portes du festival à un public qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir sur le festival. Et le troisième petit point, c'est super aussi parce qu'on crée des ponts avec le Théâtre Le Quai, avec le public spécifique au Théâtre Le Quai. Et ça aussi, c'est super. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques années, on avait fait un partenariat avec le Quai. François Morel était venu jouer et j'avais été impressionné par les 900 spectateurs qui étaient venus au Théâtre Le Quai et qui étaient complètement paumés pour accéder à la salle T900, qui était un signe. C'est-à-dire que les 900 spectateurs, on va dire 95%, n'avaient jamais mis les pieds au Quai. Et ben moi, c'est gagné. C'est-à-dire que les spectateurs ont dit d'accord, il y a aussi ce lieu-là et je peux aussi aller découvrir des spectacles et des propositions.
Mais qu'est-ce qui fait que ce public, justement, il n'est pas habitué à venir ici? Et qu'est-ce qui fait qu'un dispositif comme le concours des compagnies va attirer aussi un nouveau public?
En fait, l'avantage dans le spectacle vivant, c'est qu'il y a différents types de propositions artistiques. Donc, évidemment, il y a des publics qui seront plus proches du théâtre public, du théâtre privé, de la comédie, des petites formes, des arts de la rue, de la danse. On a aussi à côté le CNDC qui est présent. Donc, en fait, c'est une multitude de possibilités artistiques qui fait que ça donne un patchwork de publics différents. Et là, le concours de compagnie, c'est sûr qu'on est, pour un public, je dirais pas averti, mais un public sensible à la dimension artistique et à la création, et de dire j'ai bien envie de tenter ce spectacle-là avec cette jeune metteuse en scène, vous allez voir le cas tout à l'heure, et de dire tiens, j'ai envie de découvrir ce qu'elle est en train de proposer. Le théâtre, c'est le reflet de la société. Hein. Tout ce qui est écrit aujourd'hui, c'est actuel, et peut-être que dans 10, 20, 30, 50 ans, 200 ans, on en parlera encore. Je prends l'exemple de Molière, de Shakespeare, aujourd'hui, les œuvres de ces grands auteurs, on en parle encore aujourd'hui, et encore, on les joue.
Alors il y a donc 5 pièces qui vont être jouées par des compagnies émergentes, mais elles sont nombreuses à avoir postulé. Comment est-ce qu'il s'est fait le tri pour garder ces 5 pièces-là?
Alors ça, c'est le super travail de notre directeur artistique Jean-Robert Charrier, qui grosso modo a vu à peu près 200 spectacles cette année pour faire la programmation du festival et également pour faire la programmation du concours de compagnie, en soutien également avec les deux directeurs du Théâtre Le Quai, Martial et puis Jacques, qui ont donné quelques pistes et quelques conseils à Jean de compagnie régionale, puisqu'on a ouvert ce concours de compagnie à des compagnies de la région des Pays de la Loire. Et donc, sur les allez, peut-être 30, 40, 50 propositions artistiques qu'on a pu voir, soit visionner, soit voir en direct le spectacle, eh bien, Jean, après, a sélectionné, en fonction d'une sorte d'alchimie aussi qu'il pouvait avoir sur le festival en joue, de trouver que le spectacle pouvait être intéressant d'un point de vue sujet, d'un point de vue aussi mise en scène, et surtout d'un point de vue aussi de direction d'acteurs.
Et le fait qu'il y ait ce côté local chez certaines compagnies qu'on va retrouver, c'est quelque chose qui était voulu ou l'occasion s'est présentée, et là, à ce moment-là, c'était l'occasion de se dire « Ah bah, autant les valoriser ».
Alors, il y avait un souhait, et le souhait était double. Le premier, c'est que, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, quand le concours des compagnies avait été créé, il avait été créé aussi avec, d'entrée de jeu, une ou deux places pour les compagnies régionales. Ça a disparu dans le temps. 2020, la Covid est arrivée. 2021, on a tenté de remettre le concours des compagnies, ça n'a pas pu se faire. 2022, on aurait voulu aussi, et pareil, on ne pouvait pas, avec les coupes budgétaires. 2023, on relance le concours des compagnies. Il disparaît de nouveau depuis deux ans, pour des raisons, encore une fois, budgétaires. Et là, l'idée, c'était de dire, bah, ouvrons aussi aux compagnies régionales, puisqu'avec toutes les coupes budgétaires, il y a certaines compagnies qui galèrent. Et dans l'idée de la création, de mettre en avant cela, bah, je trouve que c'était aussi pertinent pour le festival qui a 70 ans, qui a des financements publics, qui a des financements privés, et je pense que c'est important de les mettre aussi en éclairage.
Et alors justement, c'est quel genre de coup de pouce que va donner ce concours des compagnies à ces troupes émergentes ?
Eh bien, très bonne question, cher Simon, parce que là, l'idée, c'est que le concours va au-delà de du simple entre guillemets jugement. J'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, dans le concours, eh bien, il est le concours est doté de prix, de trois prix, un prix du jury professionnel, là qui aujourd'hui on accueille au quai les cinq membres du jury. On a le jury jeune, cinq jeunes qui ont été aussi retenus sur candidature, et on a le jury, enfin en tout cas le prix public. On a, je crois, 35-40 spectateurs qui ont pris les cinq soirées, le pass en fait, cinq spectacles, et qui vont voter à la fin pour le spectacle. Trois prix dotés d'une enveloppe numéraire. Cette enveloppe numéraire leur permettra de réinvestir dans leur prochaine création, et qui sait, si la création qui est remontée plaît au directeur artistique, elle sera programmée, entre guillemets, dans le in du festival d'Anjou.
Alors le festival d'Anjou, c'est aussi des têtes d'affiche, on peut les citer, hein, Fabrice Luchini, Alex Lutz, Michel Faux, Vincent Dedienne et Josiane Balasco. C'est elle d'ailleurs qui a été choisie pour illustrer l'affiche de cette édition, avec une photo ancienne. Pourquoi ce choix ?
Alors là, je fais appel à vos auditeurs, auditrices. Depuis 2021, la marque de l'image du Festival Anjou, on reprenait un artiste qui était dans la programmation. Et quand c'était un artiste qui avait un certain âge, on le ramenait un peu en arrière. La première édition, c'était Catherine Higiel, toute jeune. On a eu après... j'ai bugué sur le deuxième. Oh là, je vais faire... J'ai perdu, bon, ça va revenir. On a des personnes jeunes qui ont fait partie de cette affiche, Léa Millet, qui était l'égérie du spectacle de Joël Pombra. Et pour Josiane Balasco, c'est un choix aussi de Josiane Balasco et de Jean de pouvoir lancer et proposer cette photo. Alors la photo, elle date à peu près de la période du film Nuit d'ivresse. Voilà, c'est un choix de zoomer, pas forcément côté jeunisme, hein. C'était vraiment de mettre en avant l'artiste qui, à une époque, avait une actualité très dense.
Alors ce soir, on est donc au quai, mais ce n'est pas le seul lieu où se tiennent des représentations. Il y a le Dôme à Saumur ou encore le château du Plessis-Massé qui est à Longuenée-en-Anjou. C'est important aussi de savoir sortir d'Angers et justement d'affirmer cette identité Anjou au festival et pas de faire un festival de théâtre de centre-ville.
Oui, alors bah, c'est en fait la marque de fabrique du festival d'Anjou, et tu l'as très bien stipulé, Simon. En fait, depuis 76 ans, le festival, sa marque de fabrique encore, hein, l'ADN, le deuxième ADN, c'est donc jouer dans les différents patrimoines et différents monuments historiques du département. Et l'idée, c'était de couvrir le département. À une époque, ce qui était génial, c'est qu'on avait les moyens, c'est que la vigne ne coûtait pas trop cher et qu'on pouvait jouer dans différents sites divers et variés. Et à une époque, on avait pas loin de 15 lieux de représentation. Ce qui est ça qui est génial. Et aujourd'hui, en raison des budgets, des coupes budgétaires, c'est compliqué. Mais on a cette volonté quand même d'être sur tout le territoire parce qu'on a l'appellation Festival d'Anjou. Et donc, à partir de là, il était important pour nous de jouer à Saumur, du côté de l'agglomération angevine, du côté de... du côté de C'est Tout, voilà.
Donc en effet, moins de lieux qu'avant.
Moins de lieux qu'avant, ouais.
En termes de logistique, est-ce que ça... Enfin, j'imagine que ça pose quand même beaucoup de difficultés. Comment on fait pour réussir à, entre guillemets, courir un peu partout pour que tout se passe pour le mieux?
On a une équipe dédiée. Ils ont des team-moteurs sur leurs chaussures. Et en fait, depuis une vingtaine d'années... Ouais, pratique. Depuis une vingtaine d'années, en fait, la centaine de personnes qui bossent pour le Festival d'Anjou, elles sont imprégnées, elles sont perfusées Festival d'Anjou pendant un mois. Je vous dis, on a vraiment des moteurs sous les pieds, on a des neurones connectés, et en fait, on est dans un TGV, et pendant un mois, on sait qu'on doit être présent 20 heures sur 24, pour certains, 24 heures sur 24, et pour certains, 28 heures sur 24. Ça n'existe pas, mais vraiment, je vous jure, des fois, c'est deux journées en une journée. D'ailleurs, on devrait arrêter la notion temporelle. La seconde n'existe pas, la semaine n'existe pas, voilà, sur le festival on joue, rien n'existe, on envoie.
Ça serait plus pratique, en effet. Mais donc, on imagine que c'est quand même des gens qui... Enfin, il faut une certaine passion pour pouvoir être à fond dans ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore facile de trouver justement assez de gens passionnés pour faire tourner une aussi grosse machine?
Oui, sincèrement, les équipes qui arrivent là, souvent, c'est quoi l'objectif? C'est d'amener des spectateurs à rencontrer des œuvres, des grands metteurs en scène et metteuses en scène, des grands comédiens et comédiennes, et de ressortir là chamboulé. Voilà. Si vous avez ça dans l'ADN, dans votre cœur, dans votre pulsation là, bah, c'est gagné. La passion, vous l'avez direct. Nous, on est des travailleurs de l'ombre. On met juste en avant, on amène les spectateurs à rencontrer des œuvres et des comédiens et comédiennes et des metteurs en scène et des grands directeurs d'acteurs et comédiens. Voilà. Le reste après, voilà. On essaie d'élever, en tout cas d'amener les spectateurs à s'élever sur la réflexion de notre monde.
Tu le disais d'ailleurs, pour continuer sur les personnes qui travaillent autour de ce festival, il a 76 ans, donc quand même assez ancien. Est-ce que c'est facile d'avoir un renouvellement de génération dans les personnes qui s'investissent, que ce soit à la fois dans ceux qui... Bon, évidemment, il y a le concours des compagnies, mais de ceux qui s'investissent dans ce festival. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours une nouvelle génération qui a envie de participer à l'économie, enfin à l'écosystème du théâtre?
En tant que spectateur ou...
En tant que spectateur et en tant qu'acteur, c'est-à-dire acteur. Des personnes qui vont s'engager dans des événements comme le Festival
Nantes. Oui, je crois que, de toute façon, le théâtre existe depuis l'Antiquité, depuis tout temps. C'est voilà, c'est quelque chose qui est tellement ancré en nous, qui passera les années, les siècles. Il y aura toujours des gens passionnés. Encore une fois, le théâtre, c'est quoi? C'est le reflet de ce que nous, l'être humain, on vit. Donc je pense que ça perdurera, ça existera toujours. Il y aura toujours des gens passionnés, des gens convaincus, une belle folie, une douce folie aussi. Et donc ça perdurera. Que ce soit d'un point du spectateur, qui seront intéressés pour aller découvrir des œuvres, et aussi pour les personnes qui monteront sur les planches.
Ah, j'aimerais qu'on revienne juste refaire une petite digression sur la programmation. Il y a un spectacle qui... Alors oui, on va pouvoir tout à l'heure accueillir... dernière petite question. Peut-être un mot sur le financement. On en parlait un petit peu tout à l'heure de la culture. C'est la deuxième année après la fin des subventions de la région à la culture. Comment est-ce que là, cette année, vous avez tenté de compenser cette deuxième année sans financement?
On a pris le costume d'un petit peu de VRP commercial. J'aime pas trop ce terme-là, mais en fait, on est allé chercher du mécénat privé. Et en deux ans, on est passé de 20 mécènes à une centaine de mécènes qui nous permettent de faire le concours des compagnies. Voilà. Un tiers de financement public, un tiers de financement entreprise, un tiers de financement spectateur, billetterie. Voilà.
Eh ben merci. Mon micro est éteint.
Merci bien.
Merci beaucoup à toi, Ronan, d'être venu.
À très vite.
Je rappelle que tu es le directeur du festival. Et si vous voulez réserver vos places pour cette pièce, ou pour les pièces, et tous les spectacles, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Festival d'Anjou. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on accueille Maïane Barthès, metteuse en scène de la pièce Mélancolikea, Comment meubler sa peine, qui va pouvoir s'installer dans quelques instants. Elle est en train d'arriver. On a une petite musique pour faire attendre, il n'y a pas de souci. Hop, le micro est juste là. Je le disais donc en début d'émission, les 5 prochains soirs, des troupes émergentes viennent présenter des spectacles originaux. Et ce soir, c'est au tour de la pièce Mélancolikea, Comment meubler sa peine. Et pour en parler, on reçoit Maïane Barthès. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, le micro est éteint.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc c'est toi la metteuse en scène de la pièce qui va donc être jouée à 19h. Comment on se sent à H-1?
Oh bah ça va bien. On est juste très heureux, heureuse de rejouer ce spectacle, de le jouer ici. On est, nous, une compagnie originaire de Saint-Étienne, donc on vient d'un peu loin. Et il se trouve que la compagnie a jamais joué dans le coin, donc c'est plein de joie d'être là.
Ah, c'est l'occasion.
Ouais.
Donc cette pièce, elle raconte l'histoire d'employés d'un magasin d'ameublement qui trompent leur mélancolie en s'inventant d'autres vies. Pourquoi vouloir traiter ce thème en particulier de la mélancolie ?
Bah, il se trouve que c'est un spectacle qui fait partie d'un cycle de pièces que j'ai entamé en 2021 sur les sentiments négatifs. Voilà, je me suis lancée dans cette aventure qui est un peu une enquête. Il se trouve que j'ai une aversion un peu bizarre peut-être, mais pour toutes les formes d'optimisation pour tout ce qui est bien-être, yoga et puis méditation. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu suspect dans nos sociétés néolibérales à nous encourager sans arrêt un peu à optimiser nos temps de vide, nos temps de rien, et qu'il n'y a pas beaucoup de place finalement à nos émotions négatives, et qu'il y a sans doute derrière une espèce de tentation d'optimiser... la production et nos êtres, nos intériorités, etc. Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai fait un premier spectacle qui traitait de l'ennui, qui s'appelait Je suis venue pour rien. Et ensuite, j'ai eu envie de m'attaquer à la mélancolie. Ce sont des comédies, c'est important de le dire. Donc c'est dans ce contexte-là que je continue à un peu enquêter comme ça sur les sentiments négatifs depuis un petit moment.
Oui, c'est une pièce donc un regard quand même critique très fort sur la société, tu le disais, société néolibérale, et en particulier donc cette injonction au bonheur. Donc tu as cette envie de critiquer ça, mais qu'est-ce qui fait que cette injonction au bonheur, selon toi, elle nous fait si mal en fait?
C'est-à-dire que c'est comme une façon de nous couper finalement de... En fait... Ce qu'il y a de problématique là-dedans, je rassemble mes idées, c'est que je suis fatiguée, hein, pardon, j'ai du mal à rassembler mes idées. L'injonction au bonheur, c'est une sociologue qui s'appelle Eva Illouz qui développe cette question-là dans un bouquin qui s'appelle Apicratie. C'est dans nos sociétés néolibérales une façon de nous rendre plus productifs en fait, de nous empêcher de nous laisser aller. Et puis finalement, c'est nous couper aussi d'une forme de subversion qui vient, je pense, quand on a l'espace pour y penser et l'espace pour penser nos façons d'être au monde. Et d'une autre façon, je dirais que... c'est difficile pour moi, je suis désolée, c'est la fatigue et la chaleur, effectivement. J'ai une idée que j'ai envie d'attraper et je n'arrive pas à l'attraper. Peut-être pose-moi une autre question et tout à l'heure je vais y revenir et ça va être beaucoup plus facile pour moi.
En général, ça vient un peu après, donc
oui,
on va dérouler, il n'y a pas de souci. Donc c'est une pièce donc avec aussi beaucoup d'absurdes où les personnages peuvent être amenés à converser avec une lampe, par exemple. Comment est-ce que l'absurdité au théâtre peut être justement un outil puissant pour faire passer des messages, voilà, de critiques sociétaux, mais aussi des émotions?
C'est de toute façon le rire, pour moi, c'est un endroit hyper important. C'est la question de pouvoir prendre du recul sur les choses et de pouvoir les regarder autrement, d'avoir une espèce de recul, un espèce de regard un peu à côté, puis qui c'est aussi un endroit d'autodérision, c'est un endroit de force critique, je trouve beaucoup, finalement peut-être beaucoup plus puissant que quand on se prend au sérieux. Et puis de toute façon, moi j'ai pas la capacité trop de me prendre au sérieux. La preuve, je suis là en train de patauger dans mes idées, mais il me semble que c'est un biais hyper intéressant. Et puis de toute façon, oui, c'est mon outil, c'est mon outil de travail.
Oui, parce que pour l'absurde comme pour la mélancolie, tu parles même de force politique.
Ouais, moi je trouve que c'est hyper important aujourd'hui C'est des questions sur la forme. Après, c'est que moi, en tant qu'artiste, c'est une forme qui m'occupe et avec laquelle j'ai c'est mon langage, quoi, disons, pour parler de politique, politiquement soulever des questions. Et c'est un langage que je trouve plus puissant qu'un autre, mais c'est peut-être simplement parce que c'est le mien. Voilà.
Et l'absurde, il va souvent aussi de pair avec la poésie, c'est le cas un peu dans cette pièce. Pourquoi est-ce que absurdité et poésie semblent aller si bien ensemble? Qu'est-ce qui les réunit?
C'est une bonne question. Parce que c'est une façon aussi de créer des images un peu surprenantes qu'on n'a pas vu arriver. Moi, je trouve que la poésie, elle fabrique aussi beaucoup ça, des images... tout d'un coup des ruptures avec le réel, une image. Puis de toute façon, c'est un lien avec l'imaginaire, voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, ouais, je dirais ça, c'est ça, elle est là, la poésie.
Alors, on l'a dit, cette histoire, elle se déroule dans un magasin de meubles. Pourquoi le choix du magasin de meubles en particulier? Qu'est-ce qui te semblait logique dans l'idée de situer cette pièce dans un lieu comme ça?
On a commencé vraiment par se raconter des choses autour de la mélancolie. Et assez vite, on a un peu raconté chacun, chacune, nos expériences, nos remèdes à la mélancolie. Et un peu en suivant ce fil-là, je ne sais pas comment on en est arrivé à parler d'IKEA. Et aussi parce que c'est une entreprise qui a une philosophie comme ça, qui s'appelle qui est propre à la Suède et aux pays nordiques, qui s'appelle le Hygge, je crois, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui est un peu un bonheur à la scandinave, quoi, un truc. Et donc c'est un peu en tirant ce fil là que tout d'un coup on s'est intéressé à IKEA, un magasin de meubles, etc. Et puis pour des gens qui font du théâtre, je trouve que ou pour des enfants, c'est la même chose. C'est un endroit assez génial parce que devant des espaces de démonstration comme ça, il y a une invitation même qui est faite, je pense, par ces magasins à se projeter dans une vie, à se projeter quelque part, même s'il y a une forme de standardisation des désirs des gens qui fait fatalement tomber dans une forme de mélancolie un peu profonde, je trouve.
Oui, et le magasin, d'ailleurs, il se considère comme un fabricant de bonheur en kit.
Oui, c'est ça.
C'était aussi cette volonté de mettre en avant ces grands magasins qui vendent du bonheur aux gens, alors qu'ils sont souvent dans des zones commerciales un peu sans âme, et avec des employés qui n'ont pas forcément ce métier comme vocation. Est-ce que c'était aussi l'envie de mettre un peu les pleins phares sur ce genre de magasins, qui sont des magasins de meubles dans le théâtre, mais qui pourraient être aussi des magasins d'autres choses qu'on peut retrouver chacun et chacune dans nos villes?
Oui, bien sûr. On aurait pu prendre n'importe quel magasin un peu comme ça mondialisé, dans lequel effectivement on vend des choses, des standards. Cette chose précise de raconter comme ça, de laisser aux gens la possibilité de se projeter dans un espace de vie, c'est quand même spécifique à ces magasins de meubles là, et donc ça nous a quand même beaucoup excité très vite comme terrain de jeu, en fait.
Et les personnages un peu centraux de la pièce, ça va être les employés, mais est-ce que même si on n'est pas employé de grands magasins, on peut réussir à quelque part se projeter en les voyant et se dire même si je sais pas, moi je pourrais faire un autre métier, mais je pourrais aussi me sentir concerné par ce qu'ils vivent?
J'espère. C'est vraiment la question pour nous, elle est très universelle, en fait. C'est aussi les endroits qui nous restent à investir. Puis c'est peut-être ça la réponse à la question sur laquelle j'ai buté tout à l'heure. C'est quels espaces il nous reste à investir avec nos imaginaires, à investir avec nos puissances d'agir, en fait. C'est juste que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans le fait de nous priver de nos intériorités, de nos tristesses, de nos solitudes, qui nous privent en même temps d'un outil assez puissant de réaction, en fait. J'ai l'impression que c'est assez universel quand même, qu'on peut tous et toutes se reconnaître dans ces questions-là.
Et en termes de mise en scène, comment est-ce qu'on arrive à représenter déjà un magasin de meubles, et comment est-ce qu'on arrive à peut-être créer aussi une sensation pour le spectateur, que ce soit une sensation presque de dégoût de ce genre de lieu, ou à l'inverse de d'étonnement? Comment est-ce que ça a été pensé pour qu'on puisse vraiment être immergé dans ce magasin?
Ben, on a imaginé qu'il y avait déjà deux espaces assez vite. Moi, j'ai eu envie qu'il y ait un espace de pause, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que les salariés dans l'espace dans lequel ils travaillent, mais qu'on ait aussi un autre espace qui soit l'espace où ils prennent leur pause. Et par ailleurs, moi, je travaille beaucoup avec le son, avec la musique, c'est un terme que j'emprunte à Deleuze, que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup déterritorialiser mes espaces. Donc, il fallait que l'espace soit le plus neutre possible, le plus, effectivement...
Oui, qu'on puisse s'identifier, peu importe d'où on vient.
Réaliste, c'est-à-dire qu'on puisse se dire, tiens, bon, bah, là, je reconnais le petit espace de démonstration que je trouve dans n'importe quel magasin. Et c'est l'endroit où, moi, j'active, disons, et la poésie et l'absurde. C'est l'idée d'emmener le public complètement ailleurs avec un son, avec un travail sur le son qui peut lui proposer une scénographie, disons, qui nous permet d'être tout d'un coup dans un autre espace. Donc on a travaillé un espace le plus réaliste possible et pour pouvoir le déplacer un peu au gré de nos envies, quoi.
Et comment est-ce que la musique a créé ça, justement, ce côté universel? Comment est-ce que tu as travaillé avec cette musique?
Tant pis si je
sans trop spoiler.
Voilà, c'est ça. Nous, il y a un petit fil conducteur dans ce spectacle et c'est Joe Dassin. Donc voilà, il y a une espèce. On s'est beaucoup amusé comme ça avec. Donc il revient, mais en fait, c'est parce que ce qu'on traverse dans le spectacle, c'est les espaces intérieurs un peu de nos personnages. C'est on entre dans la tête des personnages par moment, et donc pour accompagner, disons, le spectateur dans la lecture de ce qui est en train de se jouer au plateau, ben oui, tout d'un coup, il y a une musique qui a la couleur, disons, de la scène qui va suivre, et qui nous permet de comprendre qu'on n'est plus dans un réalisme, mais dans l'imaginaire, dans la tête d'un des personnages de l'histoire.
Je reviens à ce que tu disais sur les espaces de pause qui sont en fait des lieux que nous, en tant que clients, quand on va dans ce genre de magasin, on ne voit pas, mais qui pour autant sont des lieux de vie pour les personnes qui y travaillent. Est-ce que c'est justement dans... Alors je précise que je n'ai pas vu la pièce, donc je ne connais pas tout non plus justement, et est-ce que c'est dans ces espaces de pause où se crée un peu cet imaginaire qu'ont les personnages où ils imaginent d'autres vies?
Pas que, non, c'est aussi dans les espaces, ça contamine tout. Mais après, cet espace de pause, il est particulier. On s'est beaucoup amusé avec la scénographe Camille Alain Dulondel à le fabriquer, parce que c'est comme un vieil espace de démonstration qui aurait été abandonné et qui est réinvesti pour faire une salle de pause. Donc il reste une douche, par exemple, un peu encastrée dans le mur, même si par ailleurs il a toutes les caractéristiques de la salle de pause, avec les cartes postales qui ont été envoyées, avec le planning des salariés, la machine à café, etc. Oui, et puis après, si, on pourrait dire que c'est des espaces dans lesquels on s'abandonne parce qu'on est en pause. C'est les moments où on a le droit quand même de récupérer un petit peu, justement, de son soi, quoi, de son espace à soi, de son espace d'imaginaire. Donc, qu'on n'est pas soumis à toutes les injonctions aussi de la hiérarchie et lié à sa fonction de salarié d'une grosse entreprise mondialisée un peu.
Voilà. Oui, on est plus vraiment dans le lieu de vie. Pourquoi est-ce que tu as voulu présenter, alors c'est peut-être pas que toi qui as choisi, mais présenter cette pièce au concours des compagnies? Qu'est-ce qui a motivé?
Oh bah alors ça, c'est pas du tout moi qui choisis. Il y a un directeur artistique dans ce festival qui fait une programmation. On était très très heureux d'en faire partie.
C'est lui qui est venu naturellement vers la pièce, ou il n'y a pas eu de entre guillemets de candidature?
Non, il n'y a pas de candidature, ça se passe pas comme ça, enfin je crois pas. Non, ça se passe pas comme ça, on est sollicité parce que c'est lui qui fait le choix artistique. Ouais.
Et alors c'est quoi tes volontés pour la suite de la pièce? C'est quoi les attentes qu'elle puisse vivre, j'imagine, mais est-ce que derrière il y a d'autres...
Ouais, on serait très heureux, elle a déjà bien vécu, donc c'est plutôt exceptionnel, même l'aventure de ce spectacle, parce qu'il fait sa 24e représentation, et ça peut paraître un peu dérisoire, mais par les temps qui courent, avec la conjoncture qu'on traverse, c'est plutôt déjà exceptionnel, donc on est déjà vraiment... hyper heureux et heureuse qu'elle ait eu cette vie. Et bien sûr que moi, je serais ravie que cette histoire se poursuive. Voilà, ça c'est sûr. On a toujours envie de jouer, de rencontrer du public. C'est C'est pour ça qu'on fait ça.
Ben en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Mayan Barthès, d'avoir été avec nous. On rappelle que tu es la metteuse en scène de la pièce Mélancolikea, Comment meubler sa peine, qui se joue dans quelques instants ici au Quai, à l'occasion du concours des compagnies du Festival d'Anjou. Bonne
Merci
soirée.
Merci beaucoup et pardon pour l'AVC.
Pas de souci. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, toujours au Quai, pour une nouvelle émission consacrée au Festival des compagnies, au concours des compagnies, pardon. Merci à Étienne à la technique. La programmation continue sur le 103 FM, alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.